J'ai eu de la chance. J'ai juste eu de la chance. La prochaine fois, mais ça passera pas.
Ah, si j'y arrive facilement, c'est que j'ai aucun mérite. Tout le monde peut le faire, hein.
Ouais, ils ont dit oui parce que ils étaient de bonne humeur. C'est tout. Ça a rien à voir avec moi.
Je suis vraiment un imposteur. Mais le jour où ils vont s'en rendre compte.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur, comme vous l'aurez compris. Vaste sujet. Commençons comme toujours par un peu d'étymologie. C'est quoi un imposteur ? Alors ça vient du latin imponere, qui veut dire abuser quelqu'un. Quand on a le syndrome de l'imposteur, on a donc l'impression d'abuser des autres. Et si c'était de soi, en fait, que l'on abusait ? Il faut savoir que ce syndrome de l'imposteur a été identifié la première fois en 1978 chez des femmes, alors très sujettes à ce phénomène. Bon, depuis, on sait que ce dernier touche indifféremment les hommes et les femmes, et qu'au moins 70% des gens ont eu la sensation d'être un imposteur une fois dans leur vie. Et près de 20% de la population présenterait le syndrome de l'imposteur, aussi appelé syndrome de l'autodidacte ou complexe d'imposture. Jusqu'ici donc, rien de très atypique. Ce syndrome va exprimer un sentiment désagréable de doute permanent, ne jamais se sentir légitime et avoir des difficultés à s'approprier ses propres succès. Donc c'est un mécanisme psychique qui crée un sentiment de scepticisme permanent sur ses propres valeurs et qui pousse systématiquement à attribuer la réussite à des facteurs externes comme le hasard ou la chance. En gros, si on réussit, ce n'est jamais grâce à ses qualités. Et concrètement, les personnes qui en souffrent pensent ne pas mériter leur place et vont essayer de tromper leur entourage, s'attendant en permanence à être démasquées comme si elles étaient des impostures, ce qui pousse à élaborer des stratégies de défense pour éviter des situations anxiogènes ou alors, à l'inverse, du stress permanent qui peut aller jusqu'au burn-out, voire la dépression. Je vais vous décrire le cycle de l'imposture tel qu'il a été décrit dans l'étude de Pauline Rose-Clance en 1985 parce qu'il est très percutant. Alors, il se compose de 8 étapes. Donc, c'est un cycle. La première étape, bon, vous avez une activité à réaliser, c'est le début du cycle, l'étape 1. Deuxième étape, doute, stress, anxiété. Troisième étape, les comportements qui sont favorisés. Alors, on en a deux. Soit la procrastination, soit la surpréparation. Ensuite, on passe à l'étape 4, qui est le résultat, généralement positif, donc la réussite. Et là, on arrive sur l'étape 2, l'attribution de ce résultat, qui est l'étape 5. Si on a procrastiné, on va avoir tendance à l'attribuer, dans ce cas-là, cette réussite, à la chance. Et si on a surpréparé, dans ce cas-là, on va avoir tendance à l'attribuer à l'effort. En vient donc l'étape numéro 6, le dénigrement, c'est-à-dire le rejet des feedbacks positifs ou des indices de réussite. Étape 7, l'impression de ne pas être à la hauteur, le sentiment de se tromper. Et donc l'étape 8, le faible sentiment d'efficacité personnelle pour les futures tâches. Et vous voyez qu'on revient sur un cycle, on peut revenir à l'étape 1, donc une nouvelle activité à réaliser. Donc on voit bien sur ce schéma, le cercle vicieux, que la réussite des tâches ne parvient pas à endiguer. L'imposteur, même s'il surperforme, ne se sentira jamais assez efficace ni digne de félicitations. Notamment car bien souvent il aura réussi sans avoir besoin de beaucoup travailler. Quand on voit les autres faire beaucoup d'efforts, on a alors tendance à penser que sa propre réussite relève plus de la chance que de ses compétences. Parlons maintenant plus précisément de certains atypiques du cerveau, notamment les hauts potentiels intellectuels. On rencontre très souvent le syndrome de l'imposteur dans ces profils. Alors ça peut paraître contre-intuitif parce que les personnes avec un HPI ont des facilités à résoudre nombre de problèmes. Mais c'est précisément le fait de le faire sans effort qui fait qu'on va se dévaloriser. Autrement dit, si je résous un problème facilement, alors je n'ai aucun mérite. Chez les adultes à haut potentiel, ce syndrome de l'imposteur provoque des doutes récurrents, parfois obsédants, voire même paralysants. Le fait de fonctionner différemment de la majorité va entraîner beaucoup de questionnements sur la légitimité de son mode de fonctionnement. L'adulte surdoué n'arrive pas aux conclusions de la même manière que d'autres le feraient. Et le pire, c'est qu'il est parfois incapable d'expliquer comment il en est arrivé à cette conclusion. Ça a souvent pour effet d'invalider son raisonnement en apparence illogique pour ses interlocuteurs. Par exemple, quand on lui demande de prendre une décision et de l'expliquer rationnellement, la réponse peut être « bah tout simplement, c'était la meilleure décision, mais je ne sais pas vraiment l'expliquer ». Et là, vous sentez, le doute va s'installer, qui peut être renforcé par quelques généralisations, etc., etc., et on se remet en question. Alors, quelle origine de ce syndrome ? Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être tout d'abord l'environnement familial. C'est-à-dire que si, pendant l'enfance, on vous a souvent répété « tu es intelligent, tu dois trouver des solutions », etc., ça insinue que les capacités sont données à la naissance et donc un terrain favorable au syndrome de l'imposteur. Ça peut être également la comparaison sociale, c'est-à-dire le fait de se comparer aux autres en permanence. Ça peut créer des biais d'évaluation. Et également le fait d'avoir une caractéristique différente de la majorité. Et là, on retrouve évidemment la question du HPI. Si on n'a pas le même parcours, la même manière de fonctionner que ses pairs, on peut se sentir illégitime malgré les qualifications et les réussites qui viennent appuyer la preuve. Et puis certains traits de personnalité, tout simplement, le perfectionnisme, ça peut favoriser ce phénomène. Se mettre la pression pour être à 100% en permanence, et ben, ça va être source de déception et ça peut provoquer cette sensation d'illégitimité et donc des sentiments très négatifs sur soi-même. Il y a également un autre profil qui peut être particulièrement touché par ce syndrome de l'imposteur, ce sont les personnes avec un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ce sentiment de ne pas s'accomplir et de ne subir que des échecs est dans ce cas lié à une stratégie de compensation qui a été adoptée très tôt pour ne pas forcément accepter ce qu'on est et ce qu'on fait. C'est-à-dire, on peut avoir une vie normale aux yeux des autres, c'est l'interprétation de leur vie et des situations qui va être déformée. Concrètement, faire le point par exemple sur sa vie plusieurs fois par jour et boucler là-dessus au lieu d'apprécier les petits succès et de développer un sentiment de gratitude. Donc il y a beaucoup de syndromes de l'imposteur. Même si, dans ces cas-là, le profil a plutôt opté en tendance pour de la procrastination et donc réaliser ce qui est demandé au dernier moment. Donc dans ce cas-là, on ne va pas vraiment pouvoir mettre un nom sur ce qui ne va pas, sur cette personne, qui va compenser ce sentiment d'insatisfaction chronique et développer ce syndrome de l'imposteur parce qu'en quête de satisfaction des autres pour être satisfait et du coup se mettre à définir ses objectifs en fonction des attentes des autres, soit les parents, les enseignants, les collègues, des amis, et non en fonction de ses besoins et de ses propres capacités. Quelles sont les conséquences du syndrome de l'imposteur ? Alors, même s'il ne s'agit pas d'une pathologie à proprement parler, ça reste un phénomène peu agréable à vivre et qui peut avoir des conséquences fâcheuses. On vient de le voir, une des principales peurs, c'est d'être découvert et donc du stress qui va augmenter face à des attentes toujours plus élevées qu'on peut se mettre. On peut avoir de l'anxiété, on peut avoir une baisse de la satisfaction dans la vie, voire une dépression comme je le disais au tout début. Donc c'est là où c'est important d'essayer de briser ce cercle que je vous ai décrit pour ne pas s'enfermer dans un état d'esprit fixe qui va au final limiter la personne, qui va se retrouver coincée dans une zone de confort exiguë et qui va finir par être totalement dépassée par des attentes beaucoup plus élevées en permanence de l'environnement. Et dans ce cas-là, le syndrome de l'imposteur devient une prophétie autoréalisatrice. Comment diagnostiquer le syndrome de l'imposteur ? C'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, c'est plutôt un état psychologique. Alors, il existe des signes qui permettent de le détecter chez soi ou dans son entourage. Je vais vous en donner 5 principaux. Le premier, si vous attribuez systématiquement vos succès ou tout ce qui est positif dans votre vie à un élément externe, la chance, le hasard, l'aide d'autres personnes, par exemple. Deuxièmement, si vous manquez de confiance en vous et que vous avez tendance à banaliser ou à dévaloriser vos accomplissements, et dès qu'on vous remercie, vous dites « ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts » ou « n'importe qui aurait pu le faire ». Troisième point, vous êtes perfectionniste et vous vous surinvestissez, tout ça c'est poussé à l'extrême. Donc vous dépensez beaucoup, beaucoup trop d'énergie ou de temps par rapport à finalement ce qui est demandé en amont. Donc ça c'est une technique de défense, comme on l'a vu plus tôt, et qui va aussi être un indice. Quatrième point, vous avez une peur, panique de l'attention. Parce que attention, ça veut dire risque d'être mis en échec, d'être découvert, qu'on voit votre imposture au grand jour. Et donc ça peut pousser à s'auto-saboter pour éviter par exemple l'effet sollicitation qui vont mettre mal à l'aise. Et cinquième point, tendance à ruminer, notamment passer beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi vous avez été choisi ou à vous dénigrer continuellement. Mais comment sortir de ce sentiment d'imposture ? Tout d'abord, il faut savoir que ce sentiment, comme je vous l'ai dit, il est normal, il peut arriver à tout le monde. Premier point, il faut cesser de lutter contre le perfectionnisme, ces petites voix ou tout ce qu'on peut avoir qui vient rajouter une charge mentale supplémentaire. On est perfectionniste, c'est pas grave, on le sait, on s'observe et peut-être que la prochaine fois on se rendra compte qu'en en faisant un peu moins, ça passe quand même et ainsi de suite. Mais en tout cas, être souple là-dessus avec soi-même. Deuxième point, sortir du faux regard de l'autre et du jugement de soi. C'est-à-dire reconsidérer la notion d'erreur, lutter contre cet état d'esprit et revenir aux faits, toujours les faits, c'est-à-dire quels ont été les faits, est-ce que j'ai réussi, pas réussi, qu'est-ce qui était attendu, qu'est-ce que j'ai livré. Essayer, par exemple dans le cadre du travail, de revenir systématiquement aux faits plutôt que du jugement de soi. Également, quelque chose qui peut aider, trouver un mentor ou en devenir un. Les deux peuvent être aidants pour sortir aussi de ce cercle de l'imposture, parce que s'appuyer sur le regard de l'autre va permettre de poser un regard bienveillant sur soi-même. Donc si on a un mentor qui est bienveillant avec soi, on va avoir tendance, au fur et à mesure, à faire évoluer notre propre regard. Un autre point donc, qui est en lien avec revenir aux faits, c'est reconnaître ses accomplissements. Être capable de se dire, là, j'ai réussi. Peut-être j'ai été perfectionniste, peut-être j'en ai trop fait, mais en tout cas, j'ai réussi, et ça c'est un premier point. La bienveillance avec soi-même, essayer en tout cas de lever cette négativité, ce qu'on va appeler se débarrasser de son héros intérieur, c'est-à-dire la vision de soi où on devrait surperformer en permanence pour être accepté ou pour réussir. Au final, connaître ses qualités, ses talents naturels pour mieux s'accepter, ou en tout cas le faire pas à pas pour sortir de ce cercle vicieux. Merci de votre écoute, j'espère que vous aurez appris des choses sur ce syndrome de l'imposteur et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast des atypiques du cerveau.